Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous retrouver en cette rentrée pour un entretien diffusé simultanément sur Radio Lapourdi en Pays Basque et sur Radio Présence en Bigorre et Béarn. Au cours de cet entretien, nous allons aborder les événements de cet été et de la rentrée, évoquer la figure de notre nouveau pape qui fait beaucoup parler de lui, parler des sujets de société de cette rentrée et puis enfin de l'année pastorale qui commence. Alors les événements de cet été, ce sont d'abord bien sûr les Journées mondiales de la jeunesse, Alexandre Aguerre.
Oui, bonjour. Alors, les JMJ, c'était du 15 au 31 juillet dernier. Vous êtes parti avec une délégation de 54 jeunes de notre diocèse. Le thème, c'était un thème en lien avec l'année de la foi et la nouvelle évangélisation « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Vous étiez avec ces jeunes de notre diocèse et avec tous les autres du monde entier. Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Ah bah, c'est sûr que les JMJ sont toujours un événement extraordinaire par la participation de jeunes du monde entier à la rencontre du Christ au sein de l'Église, à travers son vicaire sur la terre qu'est le pape. J'ai trouvé d'abord que notre pape François, qui venait à peine d'être élu il y a quelques mois, apparaissait dans toute sa stature de pasteur universel des fidèles. Et j'étais évidemment très ébloui, comme beaucoup, par son style tout à fait latino-américain, très relationnel, très proche dans la manière de se présenter à la foule et aux jeunes, tout en étant très à l'aise vis-à-vis des grandes foules, et on voit bien dans une relation très personnelle avec chacun, essayant évidemment de serrer des mains, de bénir, de regarder, j'allais dire dans le blanc des yeux, tous ceux qu'il a pu rencontrer. Donc c'est vrai que ça a été assez beau, on a senti tout de suite cette osmose entre le pape et ces millions de jeunes, on peut dire, qui se sont pressés sur la plage de Copacabana pendant ces quelques jours à Rio de Janeiro. Ensuite, c'est le style de l'enseignement, et c'est là où j'ai eu l'occasion de le dire déjà, mais je crois que c'est très profond ça. Il y a vraiment une pédagogie divine qui se déploie dans ce dialogue inauguré entre le pape et la jeunesse depuis Jean-Paul II, dont les JMJ sont l'intuition géniale et inspirée. On voit bien qu'il y a une espèce de progression et de maturation aussi de ces jeunes. Je pense aux premières JMJ auxquelles j'ai participé en 89 à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était encore les premières années des JMJ jusqu'en 2013, mais déjà en 2011 à Madrid. On voit que la jeunesse est plus mûre intérieurement pour participer à ce genre d'événement. Il y a une espèce d'affinement qui s'est produit au cours des âges. Je dirais autant Jean-Paul II a été celui qui a redonné vraiment sa visibilité à l'Église et donc sa fierté aux catholiques, en particulier aux jeunes, d'appartenir au Christ et à l'Église. Ça, c'est indéniable. Benoît XVI a été celui qui a apporté cette touche d'intériorité, de prière, de contemplation, d'adoration. On se rappelle que c'est à Cologne que ce temps d'adoration a commencé à frapper beaucoup les esprits au cours de la grande veillée festive de rencontre avec le pape au cours des JMJ. Et puis aussi la qualité de la liturgie, puis l'enseignement. Et on voit qu'il y a une génération Benoît XVI que j'ai rencontrée, pour ma part, en étant évêque catéchiste, tant à Madrid qu'à Rio. Je vois que ces jeunes, quels qu'ils soient, accompagnés par des communautés nouvelles ou des congrégations traditionnelles comme les assomptionnistes ou les jésuites, mais aussi de nos diocèses, du Nord, de l'Ouest ou d'ailleurs. Je rencontre évidemment beaucoup de groupes de jeunes dans ces trois catéchèses qui sont données. Eh bien, on voit que c'est la génération de Benoît XVI dans le sens où ce sont des jeunes qui sont avides de connaître vraiment leur foi, donc très attentifs à l'enseignement, très réactifs, et très interactif même à travers les questions et réponses très profondes qu'ils peuvent poser aux évêques au cours de cet exercice, et aussi qui ont soif de vie intérieure. Donc ça, je vois bien que c'est la touche de Benoît XVI. Et puis, avec le pape François, dans une grande continuité et en même temps une discontinuité, parce que chacun a son charisme tout à fait propre, mais qui n'annule pas les précédents, il y a ce désir d'authenticité, voyez, ce désir de nous inviter à être plus authentiques dans notre foi, c'est-à-dire à vivre vraiment en cohérence avec la foi. On y retrouve le jésuite, le disciple de Saint Ignace, qui nous invite à une spiritualité extrêmement pratique, de l'engagement, hein, qui vient du discernement et qui conduit à des décisions et à un engagement qui peut être définitif. Il a beaucoup insisté, en effet, la nécessité d'aller à contre-courant d'une culture de l'éphémère et du provisoire, de l'instantané, et de s'engager vraiment pour la vie à la suite du Christ.
Avant d'aller à Rio, vous étiez à Diamantina, c'est un peu le fief de la communauté Palabra Viva. Or, comment vous avez été accueilli là-bas, en sachant que donc cette communauté, vous l'avez voulu dans notre diocèse, présente notamment à la maison diocésaine de Bayonne?
Alors, c'est ce qui nous a permis, de fait, d'avoir un voyage préparé en lien avec le Brésil, puisqu'on avait déjà des gens dans la place, puisque nous étions accueillis en effet dans leur berceau, le berceau de cette communauté, à Curvelo, dans le diocèse de Diamantina, dans le Minas Gerais, dont la capitale est Belo Horizonte, et nous étions accueillis dans leur école d'évangélisation. Donc ça a été 5 jours d'immersion dans l'effervescence de la jeunesse fervente du Brésil, à la fois extrêmement relationnelle, extrêmement dynamique, dans la spontanéité de la relation fraternelle, dans la joie, dans la danse, dans le chant, et en même temps dans la ferveur, hein, et dans la radicalité de l'engagement aussi évangélique, puisque nous avons assisté la veille de notre départ pour Rio à la messe présidée par l'archevêque de Diamantina, où un certain nombre de ces jeunes, très jeunes, faisaient un engagement définitif dans cette communauté comme laïc consacré au service de l'évangélisation, et ça a beaucoup marqué les esprits, et les jeunes ont été extrêmement impressionnés et émus de participer à cet engagement.
Alors, Monseigneur Haillé, le pape s'est aussi adressé aux évêques, notamment d'Amérique latine et des Caraïbes, à travers un message. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce message?
Un très beau message aussi, où je voyais bien que la grande source de ce message, sur la manière d'entrevoir en Amérique latine, mais avec certainement pas mal d'enjeux pour nous aussi, hein, et pour l'Église universelle, même si ce n'était pas adressé aux évêques du monde entier, et que c'était forcément très circonstancié. Là, on trouve encore le jésuite qui est toujours dans les circonstances de temps et de lieu. Hein. On voit Saint Ignace qui, dans ses exercices, fait toujours la composition du lieu. Donc je pense bien que le pape s'est d'abord adressé aux évêques d'Amérique latine et des Caraïbes et aux évêques du Brésil. Mais la source, on voit bien, c'est le document d'Aparecida, qui est le résultat de cette 5e conférence générale de l'épiscopat latino-américain en 2007, présidée par Benoît XVI, et qui est une mine, hein, qui est une bible pour engager une grande mission continentale dans le continent latino-américain. Et on voit cette insistance qui est dans le droit fil de cet appel à la nouvelle évangélisation, tant de Jean-Paul II que de Benoît XVI, et relayé avec toute sa fougue missionnaire, parce que comme il le dit dans un entretien sur lequel on va certainement revenir, le jésuite, pourquoi il est devenu jésuite? À cause de l'élan missionnaire qui caractérise la compagnie de Jésus. On sait les circonstances avec les Saint-Ignace de Loyola s'est mis au service du pape précisément pour l'évangélisation, en particulier du Nouveau Continent. Et donc on voit bien qu'il y a là ce désir de dire aux évêques, bah, attention, hein, il faut vraiment être d'abord des missionnaires et pas des fonctionnaires. Il faut aller aux périphéries, il faut construire un programme pastoral, non pas à partir de ceux qui sont dedans, mais à partir de ceux qui sont dehors, pour annoncer l'évangile jusqu'aux périphéries sociales de l'humanité, comme il le dit sans cesse, et tout en étant centré sur le Christ et sur l'Église. Bon, il y a tout un langage qu'on reçoit et qu'on entend souvent, et qui est très pratique, finalement, hein, et qui est très pastoral, et donc moi aussi, j'ai beaucoup médité ces textes.
Alors, Monseigneur Haillé, donc ça c'était à Rio pour ces JMJ, mais pendant ce temps à Lourdes, il y avait aussi en fait des JMJ qui suivaient celle de Rio. Donc il y avait 1500 jeunes rassemblés là, et il y en avait 85 de notre diocèse. Alors vous n'y étiez pas, mais est-ce que vous avez eu des retours sur
Bien sûr, nous avons eu la journée du 1er septembre à Belloc, où nous avons fait une journée de retour des JMJ, à la fois de Rio et de Lourdes, pour voir que tout le monde avait vécu des choses extraordinaires. aussi bien à Lourdes qu'à Rio, et en très grande syntonie et en très grande communion. À Lourdes, bah, c'était des mini-JMJ, il y avait aussi des évêques qui ont fait des catéchèses, hein, comme pour les autres, et puis ils ont pu, en différé, participer aux grands événements avec le pape, et ils en sont revenus avec beaucoup d'enthousiasme aussi, et c'était beau cette journée de 1er septembre, parce qu'ils ont partagé leurs témoignages, et puis ils ont vu comment maintenant c'est une seule communauté qui va attester de cette expérience dans le diocèse par les engagements qu'on va leur demander évidemment de prendre, en particulier dans la pastorale des jeunes.
Très rapidement, Monseigneur, un mot sur la semaine mariale que vous avez voulu autour de la cathédrale de Bayonne et également sur le message que vous avez adressé pour le 15 août, un message intitulé « Prière pour la France ».
Oui, alors la semaine mariale autour du 15 août avec la communauté Ein Carem, qui est une communauté créée par le père Giton, un prêtre parisien, lié à Montmartre, hein, toute l'aventure de Montmartre avec Monsieur Charles, ce serait trop long de rentrer dans des détails, et qui a voulu créer une communauté avec des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui s'engageraient dans une évangélisation un peu directe et un peu frontale. Lui est un grand spécialiste, c'est son charisme de prédication de rue, qu'il a initié sans doute sur la place du Tertre, près de Montmartre, mais aussi dans le Trou des Halles, dans les années 80, et debout sur un tabouret, en prêchant à la foule, avec des missionnaires autour, bah, qui voient les réactions et qui rentrent en dialogue avec les gens qui s'arrêtent et qui sont un peu interpellés. Et donc, l'idée, c'était, si vous voulez, d'abord, cette semaine mariale, avec Ein Carem, autour de la cathédrale, à une période où il y a énormément de touristes, énormément de visiteurs de la ville, qui est magnifique, de Bayonne, mais aussi de la cathédrale, qui est un joyau d'architecture, comme on le sait, et bien de dans la ligne un petit peu de cette nécessité de sortir un peu de nos sacristies et d'aller à la rencontre des gens pour attester de notre foi, hein, ce à quoi nous appelle sans cesse le pape François, et bien c'était l'occasion, dans la suite de d'Agour Maria pendant les fêtes de Bayonne, et ensuite à Nuncio, le festival d'évangélisation qui s'est passé pour la troisième ou quatrième année consécutive à Biarritz, hein, là aussi où il y a beaucoup de monde. C'est une manière aussi de poser des actions missionnaires qui sont à la fois, comme disait le pape aux évêques, le pape François, donc à Rio, à la fois paradigmatique, parce que c'est vraiment des actions missionnaires tout à fait significatives pour notre mise en état de mission, et puis programmatique, parce que ça doit induire une dimension missionnaire dans toute notre pastorale, y compris celle de l'accueil des personnes, et en particulier de notre pastorale sacramentelle.
Radio Lapordi.
Nous sommes avec vous, Monseigneur Hayet, pour cette émission de rentrée. Une rentrée donc qui a déjà commencé. Vous avez été à Lourdes avec l'association Lourdes Cancer Espérance. Un tout petit mot sur ce pèlerinage que vous avez présidé cette année et qui a rassemblé près de 5000 personnes.
Alors d'abord, je crois que je prendrai les pèlerinages à Lourdes dans leur unité, car j'ai commencé par présider donc ce pèlerinage Lourdes Cancer Espérance avec un peu plus de 5000 personnes concernées par le cancer, ou bien parce qu'elles le vivent dans leur chair, ou l'ont vécu dans leur chair, ou bien parce qu'elles l'ont vécu et le vivent dans un être qui leur est proche ou cher. Et puis dans la foulée, le pèlerinage de l'HBB, notre grand pèlerinage diocésain aussi, avec la journée des familles, dimanche magnifique, sous un soleil radieux, auquel on n'est plus habitué à Lourdes, quand on sait les inondations qui ont secoué cette ville de pèlerinage depuis quelques mois. Et je dirais en un mot que ce qui m'a le plus frappé cette année, dans la ligne peut-être de Diaconia 2013, c'est la place centrale au cœur de l'Église des personnes marquées dans leur chair ou dans leur âme par l'épreuve, par la souffrance, par cette forme de pauvreté qui est de vivre dans leur chair, ben, l'épreuve de la maladie, hein, ou de la précarité même. Hein. Et c'est très important parce que c'est un message prophétique. Qui soient là à la première place dans nos assemblées, que ce soit eux qui soient au centre de la vie de l'Église, eh bien, est très significatif de ce qu'est l'Église et de ce qu'est que l'Église comme corps du Christ qui s'est précisément identifié aux plus petits, aux plus fragiles, aux plus pauvres, aux plus diminués, et qui nous dit eh bien, la valeur infinie de la vie humaine, même quand elle est diminuée, même quand elle est amoindrie, aux yeux de Dieu, est telle que chacun peut le reconnaître dans le regard que nous pouvons porter sur ces pauvretés, sur ces souffrances. Voyez, Et ça, c'est prophétique dans le monde d'aujourd'hui où la vie est trop considérée à l'aune presque exclusive des critères de la santé, de l'esthétique, de la réussite, de l'efficacité sociale. Et là, on a toute vie mérite d'être vécue et précieuse aux yeux de Dieu. Et nous avons cru en l'amour et c'est ça notre foi.
Alors, Monseigneur Hayet, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre rencontre avec le pape au cours des JMJ à Rio. C'est vrai que ce nouveau pape, on commence à mieux le connaître. Vous avez présenté récemment sa première encyclique, Lumen Fidei, qui finalement a été rédigée avec Benoît XVI, mais qui a été signée par le pape François. Quels sont en deux mots les traits caractéristiques de cette encyclique, Lumière de la foi?
Première caractéristique, comme vous venez de le souligner, c'est comme l'a dit lui-même le pape François, c'est vraiment une encyclique écrite à quatre mains. Humilité d'un pape, celui qui est émérite aujourd'hui, qui a rédigé un texte auquel il tenait dans l'année de la foi, qui correspond à cette trilogie finalement après avoir parlé de la charité, des Deus Caritas Est et de l'espérance dans Spe Salvi, mais qui renonce à publier ce texte à partir du moment où il lui-même a renoncé à sa charge. Et humilité du pape François, qui le dit lui-même au numéro 7 de cette encyclique, qui s'approprie ce travail précieux, comme il le dit, avec quelques contributions ultérieures, et qui le signe en tant que successeur de Pierre. Et donc c'est l'encyclique du pape François, même s'il y a cette belle communion, cette belle continuité de l'unique sujet Église que Dieu nous a donné à travers la succession des papes. Les quatre chapitres qui nous disent l'essentiel, la foi présentée comme une lumière qui vient éclairer toute notre vie, et donc qui a quelque chose à voir avec la raison, mais aussi avec l'amour, parce qu'il n'y a pas de vérité sans amour, pas d'amour sans vérité. Et que le fondement le plus fiable de notre foi, c'est la révélation d'un Dieu d'amour, et qui se réalise pleinement dans le Christ mort et ressuscité pour nous. Donc nous avons cru à l'amour. Et en même temps, si nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas comprendre. Ça veut dire que la foi est une lumière qui nous permet d'entrer petit à petit dans la connaissance du mystère de Dieu et du mystère de l'homme, et même du mystère de la souffrance. Et puis la troisième partie, insistant beaucoup sur comment cette foi nous arrive. Comment nous est-elle transmise? Par l'Église, la dimension ecclésiale de la foi. L'Église est ce milieu vivant dans lequel nous recevons la foi, c'est à la fois la liturgie, les sacrements, c'est la parole de Dieu bien entendu, lue dans la tradition de l'Église, c'est le décalogue, c'est le pater, les quatre piliers de la catéchèse. Et enfin, comment la foi éclaire notre vie humaine, principalement dans sa dimension sociale. Donc comment la foi éclaire la vie de la famille, la vie de la société, éclaire la souffrance aussi, avec des phrases magnifiques comme « La foi n'est pas une lumière qui dissiperait toutes les ténèbres, mais elle est la lampe qui guide nos pas dans la nuit et cela suffit pour le chemin. » Elle ouvre une trouée de lumière en nous accompagnant par cette présence de Dieu qui s'est rendu présent dans notre souffrance en la vivant lui-même. Enfin, il y a des choses qui sont tout à fait magnifiques et qui nous disent, pour résumer, la foi est une lumière qui nous permet de voir Jésus tel qu'il s'est révélé, mais en même temps de voir avec les yeux de Jésus. Et donc nous ne pouvons plus voir même notre vie humaine dans ces considérations les plus temporelles en dehors de la manière dont Jésus les voit, donc avec les yeux de la foi.
Alors ça, c'est le premier enseignement donc que l'on a appris du pape. Il a aussi également répondu à une interview inédite récemment pour les revues jésuites. Et là, on a découvert encore une personnalité simple qui a du mal à parler d'elle, mais qui parle de façon très, très spontanée. Alors, c'est vrai que cette interview a été beaucoup relayée dans les médias. Elle a été interprétée comme une sorte de vent de réforme qui allait souffler sur l'Église. Peut-être qu'on peut mettre l'accent sur certains points que vous pourriez nous commenter. Alors, tout d'abord, on peut parler de la place des femmes dans l'Église. Alors, il a dit « Il est nécessaire d'agrandir les espaces pour une présence féminine plus marquante dans l'Église. » Ou alors « Le génie féminin est nécessaire là où se prennent les décisions importantes ». Est-ce que vous interprétez cela comme une réforme possible sur la place des femmes dans l'Église?
Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut faire une différence entre la lecture qui nous est donnée par les médias, que je ne veux pas dire mal intentionnée d'ailleurs pour autant, et le texte lui-même. D'abord, c'est une interview qu'il a donnée et accordée en bon jésuite au lendemain des journées de Rio, aux différentes revues jésuites, et qui est paru en français, dans sa version française, dans la revue Les Études. Donc c'est un jésuite qui parle aux jésuites. D'abord ça c'est très important, parce que il fait des confidences aux jésuites, et d'ailleurs l'essentiel de l'interview tourne autour de la spiritualité ignatienne. hein, qui marque la manière de gouverner, qui marque la manière de discerner, qui est, un, comme il dit, une arme de combat. Tout ça est tiré des exercices spirituels de Saint Ignace. Et puis une spiritualité très pratique, encore une fois, très pastorale, donc un langage très pastoral, une attention aux personnes, et dans leur cheminement vers Dieu, hein, et vers le Christ et vers le salut. Hein, c'est trouver Dieu et chercher Dieu dans ma vie, comme dit Saint Ignace. Et ça revient sans cesse. Ensuite, il y a toujours une lecture qui est un peu, je trouve, et c'est important de le souligner, qui est une herméneutique un peu évidemment extérieure et politique. Quand je lis cette interview, moi je suis dans la joie, hein, parce que je suis tout à fait en phase avec le langage très simple et très, en même temps très traditionnel que le pape livre dans un exercice de style qui est une interview à un journaliste. C'est pas un document magistériel comme l'encyclique que nous venons de noter et qui a évidemment beaucoup plus d'importance encore dans la vie de l'Église. Et en même temps, quand je lis la pauvre herméneutique qui en est faite par les médias, qui veulent absolument l'opposer et dire c'est un vent de réforme, c'est une révolution, c'est vraiment tout a changé, on n'est plus et toujours dans cette espèce de comparaison négative par rapport à ceux qui l'ont précédé. Là, je ne me retrouve pas du tout et je me porte en faux par rapport à tout ça, parce qu'il ne s'agit pas de ça du tout. Quand il s'agit de la place des femmes, il redit ce que Jean-Paul II a dit admirablement dans la lettre sur la dignité des femmes, hein, Mulieris Dignitatem, pardon. Il redit ce que Benoît XVI a dit infiniment aussi, lui qui a mis pour la première fois des femmes dans les dicastères, c'est Benoît XVI, dans une très belle série de catéchèses sur les femmes dans l'Église, qui est magnifique, auquel je vous renvoie. Et il redit ça avec ses mots à lui, et en étant extrêmement, j'allais dire, traditionnel dans la vision de l'Église. Ceux qui croient que la femme est ordonnée prêtre, ben, ils lisent bien. Il dit « je crains la solution du machisme en jupe ». Je ne veux pas revenir sur ce que le cardinal 23 avait dit avec maladresse et qui a conduit au comité de la jupe, qui est devenue la conférence des baptisés de France. Mais il veut dire en effet que la femme a une structure différente de l'homme et qu'il ne s'agit pas de penser à la fonction. Il faut distinguer, dit-il un peu plus loin, ne pas confondre la fonction avec la dignité. Parler de la dignité de la femme et de sa place dans la vie de l'Église, et de fait il a raison de dire qu'il faut continuer cette théologie approfondie du féminin, et même dire avec tout à fait justice, réfléchir sur la place précise des femmes, aussi là où s'exerce l'autorité dans différents domaines de l'Église, c'est pas promouvoir ni le diaconat ou le sacerdoce des femmes d'aucune sorte, voyez. C'est essayer de revenir toujours plus à ce dont nous avons tous l'intuition, mais qui est toujours difficile dans le monde marqué par la parité, le féminisme, le machisme, qui sont des avatars d'une société marquée par le péché. Moi, j'aime beaucoup parler de Marie-Madeleine, et j'aime mieux dire en latin le titre qu'on lui donne quand on dit apôtre des apôtres. En latin, c'est apostola apostolorum. Ça veut dire qu'apôtre en latin, ça se décline au féminin, pas en français. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ça veut dire qu'elle est l'apôtre des apôtres, mais elle n'est pas apôtre au sens de celle qui a reçu mission de représenter le Christ pour construire l'Église. Et pour autant, je redis, dans un couple, c'est évident que le mari qui a des décisions à prendre en fonction de ceci ou de cela et de sa fonction, ben, il ne peut pas le faire sans une étroite collaboration avec sa femme et que sa femme va lui apporter une touche féminine qui est tout à fait nécessaire à la décision qu'ils vont prendre de concert. Donc je crois bien en effet que pour nous c'est très important et d'ailleurs nous le vivons au quotidien mais peut-être pas avec assez de reconnaissance. C'est ça qui est intéressant dans cette théologie approfondie du féminin, que la femme elle doit être aussi associée aux décisions que nous allons prendre nous en tant que ministre qui représente le Christ dans l'Église. Donc moi je m'y retrouve tout à fait bien et je crois qu'il faut bien écouter ce qu'il dit, hein. Le discours que j'entends sur le rôle des femmes sont souvent inspirés par une idéologie machiste. C'est très intéressant et je le dis souvent ça. Ça veut dire on voudrait faire à la femme tout ce que fait l'homme. Finalement, le critère, c'est l'homme, alors. Et c'est une forme de machisme déguisée au nom de la parité. Vous voyez, je le dis tout ça avec un petit peu d'humour.
Monseigneur Hayé, nous poursuivons sur cette interview que le Saint-Père a accordée à des revues jésuites concernant les questions sociétales comme l'homosexualité, l'avortement, la contraception. Il s'était déjà exprimé au retour des JMJ dans l'avion lorsqu'il avait accordé une conférence de presse qui n'était, je crois, pas prévue. Si je résume en disant que pour le pape, c'est l'évangile avant la doctrine, qu'est-ce que vous dites, vous ?
C'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il est dans un contexte pastoral et je crois que c'est ça qui est très beau et très important. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il innove complètement, mais c'est sa grâce. Donc il ne faut pas lui enlever ce charisme. Et moi, je me réjouis que les médias soient subjugués par la personnalité du pape d'aujourd'hui, si ça peut permettre de mieux faire passer encore le langage qui est celui de l'Église depuis toujours et de laquelle il ne se départit pas. Hein, quand il dit que l'Église doit être considérée comme un hôpital de campagne après la bataille, donc il faut d'abord soigner les grosses blessures, et c'est évident que ce qui est premier, c'est l'annonce de l'évangile du salut, c'est le cœur et l'essentiel de la première annonce qui doit faire partie de notre prédication et des homélies. On le sait bien, la nouvelle évangélisation, c'est la première annonce, et je crois qu'on en parle déjà depuis des années. Et il dit, après, on en tire des conséquences morales pour la vie. Et il est interrogé là-dessus en disant, on m'a reproché de ne pas parler du mariage entre homosexuels et de l'avortement ou de la contraception. On ne peut pas en parler tout le temps, il dit. Bon, entre parenthèses, vous savez bien, vous qui m'écoutez, que vous n'avez pas beaucoup entendu parler vos curés et vos évêques dans l'homélie, la prédication en chair de toutes ces questions sociétales, même si de temps en temps, comme il le dit, mais lorsqu'on en parle, il faut le faire dans un contexte précis. Il y a des contextes sociaux, politiques, circonstanciés aussi aux personnes que l'on rencontre, qui nous imposent une parole de vérité. Entre parenthèses, je voudrais remarquer que le lendemain même de cette interview qui a fait grand bruit, le pape rassemblait les gynécologues et sur lesquels il a parlé de la vérité de manière absolument très claire sur l'avortement, sur la vie humaine au départ. Et qu'on vient d'apprendre que le pape a excommunié un prêtre australien il y a quelques mois, c'est le pape François, et ça peut être que lui, bien sûr, parce que ça lui appartient, pas personne d'autre. Il a excommunié un prêtre australien tout simplement parce qu'il défendait l'ordination des femmes et le mariage entre personnes homosexuelles. Bon, je ne sais pas si la presse a rendu compte de cet événement, mais en tout cas, ça veut bien dire que tout ça n'est pas binaire et qu'il ne faut pas essayer, comme il le dit lui-même en parlant de la confession, d'ailleurs il renvoie chaque personne dans sa recherche honnête de Dieu et dans son chemin de croissance dans lequel la confession est au centre. Et il dit, il ne faut être ni rigoriste ni laxiste. Le rigorisme, c'est dire la loi et puis se laver les mains sans rencontrer la personne dans sa souffrance et dans son chemin de croissance. Le laxisme, c'est dire miséricorde, c'est bon, c'est pas péché, continue à faire ce que tu fais. Il dit, c'est l'accompagnement des personnes. C'est profondément important, mais à la lumière de la vérité, et qui se monnaie progressivement. Quand il dit, une personne homosexuelle qui recherche Dieu avec bonne conscience et qui cherche la grâce de Dieu, qui suis-je pour la juger? Et je cite le catéchisme de l'Église catholique. Mais c'est la position de l'Église dans sa pastorale. Alors je vous renvoie au très beau document de la Congrégation de la foi du cardinal Ratzinger sur la pastorale envers les personnes homosexuelles. C'est exactement ce que l'Église a toujours dit, tout en invitant à la lumière de la vérité, qui est le Christ, qui est une personne, eh bien, à changer ses modes de vie. Et le salut reste authentique. Moi, je ne vois pas de différence avec ce que l'Église a toujours dit, même s'il y a une insistance là qui est très belle sur la miséricorde, l'accompagnement des personnes. Et ça, c'est important pour nous, pasteurs, qui sommes appelés à dire la vérité. N'oublions pas qu'il faut accompagner vraiment les personnes dans la condition dans laquelle ils sont et les prendre là où ils en sont, pour les faire cheminer.
Alors, dernier élément de cette interview sur lequel on peut revenir, donc interview du pape aux jésuites, lorsqu'il fait allusion au rite liturgique et qu'il appelle vetus ordo, il fait aussi allusion aux personnes qui ne cherchent que des solutions disciplinaires, qui tentent de manière exagérée à la sûreté doctrinale, qui cherchent obstinément à récupérer le passé perdu. Et il dit que ces personnes ont une vision statique et non évolutive. Est-ce que derrière cela, on peut voir une critique implicite des milieux traditionnalistes à qui Benoît XVI avait tendu la main?
Évident. Et d'ailleurs, je crois que cette critique, le pape Benoît XVI les a aussi appliquées. Quand vous lisez le motu proprio, la lettre qui accompagne le motu proprio summorum pontificum, où en effet, selon un jugement prudentiel, comme le dit de manière très juste le pape François, le pape Benoît a libéralisé le vetus ordo par opposition au novus ordo, comme on dit en latin, donc le vieil ordo par rapport au nouvel ordo de Paul VI, le pape Benoît XVI dit qu'il y a des risques d'idéologisation, d'instrumentalisation du rite ancien, que si c'est pour rester dans le passé, enfermé, sans être ouvert à l'Église dans son entier et dans le progrès nécessaire dont a toujours parlé le pape Benoît XVI de la liturgie, qui, comme l'Église, progresse de manière organique mais sans rupture, eh bien, c'est condamnable. Et il a raison de le dire. Et d'ailleurs, il le dit ici. Il dit ce qui est préoccupant, c'est le risque d'idéologisation du vetus ordo, son instrumentalisation. Mais il ne dit pas que tous ceux qui pratiquent le vetus ordo depuis que le pape, dans un jugement prudentiel, en effet, l'a repermis dans l'Église, il ne dit pas que tous sont idéologiques et tous sont dans l'arrêt sur image. Parce qu'il y a parmi ceux qui utilisent le vetus ordo pour des raisons de spiritualité, eh bien, un vrai désir d'évangéliser, d'aller à la rencontre des périphéries et d'annoncer l'évangile à tous. Donc, c'est pas aussi binaire que ça. Mais l'interprétation est vite faite, hein, quand on est dans une vision d'herméneutique un peu dialectique.
Le 23 septembre, le pape était à Cagliari pour sa deuxième visite pastorale en Italie. Donc, la première, c'était à Lampedusa, une île. La seconde, c'est également une île, la Sardaigne. Et là, il a touché les gens, parce qu'on a vu des images, quand même, notamment quand il s'adresse aux travailleurs, quand il laisse son papier en disant « Je remets le papier à votre archevêque et que je veux vous parler avec mon cœur » et qu'on voit des gens pleurer quand il s'adresse à eux. C'est peut-être ça, finalement, le changement par rapport à Benoît XVI. C'est un pape qui, peut-être, est moins académique.
Alors, je ne crois pas que Benoît XVI est académique pour autant, mais ce n'est pas le même tempérament. Le changement, il vient de qui sont différents. Mais c'est pas, vous voyez, moi je suis pas dans cette dialectique sans cesse. Je pense que le Saint-Esprit suscite pour l'Église, dans un temps donné, l'homme qui convient et dont le charisme est le plus nécessaire. Ce qui était nécessaire au moment de Benoît XVI, c'était la lumière de la foi. C'était l'enseignement lumineux. C'était le retour au cœur même de la foi qui est la rencontre avec le Christ. C'est l'intériorité. Hein. Donc, c'était nécessaire. Il avait le tempérament qu'il avait. Et ça ne le juge pas pour autant. Chacun. C'est ça la symphonie de l'Église. On n'est pas sans arrêt dans la comparaison. À force de comparer, on finit par opposer. Et en opposant, eh bien, on dit on prend ceci, on prend pas cela. C'est pas le problème. Pape François a ce charisme extraordinaire, en effet, de cette proximité par sa personne. Il a une empathie qui est inscrite dans ses gènes. C'est un latino-américain. Benoît XVI n'était pas académique, d'ailleurs il touchait même les jeunes à Madrid parce qu'il était frêle, fragile dans son humanité physique et il savait dire ce qu'il y avait dans son cœur. C'est le premier pape qui a parlé, pas la première personne parce que c'est depuis Paul VI qu'on parle de la première personne, mais qui a dit des choses de son expérience spirituelle. Même Jean-Paul II était extrêmement réservé sur son témoignage personnel, il l'a fait vraiment à la fin de sa vie devant les prêtres. Vous voyez, il ne faut pas opposer, mais c'est vrai que c'est une belle image et moi je trouve que c'est cet aspect du Christ bon pasteur qui nous présente. Merci Seigneur, parce qu'on en a besoin aujourd'hui particulièrement. Mais ça ne l'oppose pas à Benoît XVI.
Il a invité quand même les gens qu'il a rencontrés sur cette île de Sardaigne à se révolter contre le système économique en place qui génère des injustices. C'est quand même très fort.
Et moi, je me réjouis de ça. Nous sommes gouvernés, j'ose le dire, avec peut-être un peu d'excès, depuis en France comme ailleurs dans nos pays occidentaux, par une oligarchie libéral, libertaire, qui, entre parenthèses, s'en met plein les poches, il n'y a pas d'autre mot, qui soit de droite ou de gauche, parce que c'est une fausse alternance, et sont des gens qui entretiennent un système qui les nourrit. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que les petites et moyennes entreprises ne sont pas capables de procurer du travail et n'ont pas la possibilité parce qu'elles sont taxées un peu plus. Les ménages sont taxés un peu plus. Les familles ne peuvent pas vivre. Les gens sont exsangues et sont dans l'inquiétude de l'avenir. Et pendant ce temps-là, on a une classe dirigeante qui continue de mettre l'argent au centre comme une idole. C'est l'argent qui mène le monde. C'est évident. Qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient pas socialistes, ils sont tous des libéraux qui profitent d'un système où l'argent est roi. Pourquoi nous en sommes là? Parce que l'argent est roi. Ben, je trouve ça magnifique qu'on ait un pape qui, une fois de plus, ose dénoncer les idoles d'aujourd'hui.
Est-ce que ça a un lien pour vous avec la théologie de la libération?
Le pape François, comme vous le savez, s'est toujours méfié de la théologie de la libération. Déjà comme jésuite, mais on sait que ses théologiens préférés ne sont pas les théologiens de la libération. Au contraire, il les a combattus, en Amérique latine en particulier, où ils ont été au cœur de la chose. C'est une théologie qui est une théologie du peuple. Il y a un théologien argentin qui s'appelle Scannon, qui est vraiment je dirais celui qui l'aide à construire sa propre théologie. C'est le peuple de Dieu. Il n'est pas du tout dans cette, il l'a dit d'ailleurs aux évêques, cette idéologie socialisante qui comprend l'évangile à partir de Marx, mais qui n'est pas conforme à l'évangile. Hein. C'est certainement pas toujours la libération.
Dernier sujet qui fait parler de lui dans la presse, c'est le sujet du mariage des prêtres. C'est vrai que le débat a été plus ou moins relancé après la déclaration de Mgr Pietro Parolin, qui est donc le futur secrétaire d'État nommé par le pape François, qui a dit que le célibat des prêtres n'était pas un dogme. Alors, est-ce que, selon vous, le débat est vraiment relancé ?
Non, pas du tout. Il a fait flop, d'ailleurs, comme vous l'avez vu. Et il y a eu de très belles mises au point, en particulier sur Potvin, dans le site de la Conférence des évêques de France. Pourquoi ? Parce que là encore, est-ce que c'est ce que les médias nous rapportent de cette interview ou est-ce que cette interview ? Êtes-vous, vous-même, journaliste en plus catholique, êtes-vous allé lire l'interview à l'journal El Universal
vénézuélien ? Il a insisté pour dire que ce n'était l'esprit, c'est pas l'esprit du temps qui...
Avez-vous lu cette interview hein, en espagnol ? Elle est tout à fait accessible. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'abord, c'est une transcription d'une interview qu'il faut voir en vidéo. Ça change même par rapport au texte. C'est là aussi où une interview écrite par un journaliste, y compris celle du pape François, est forcément soumise à des imperfections parce qu'il met par écrit quelque chose qui est dans un style oral et il faudrait voir la vidéo pour le comprendre. Là, il n'y a pas de vidéo pour l'interview du pape François, mais là, il y en a une pour Parolin. L'Universal fait le... Donc, il y a une différence déjà. En fait, ça s'est passé comment ? Il est interrogé sur la constitution de l'Église et sur ce qui peut changer dans l'Église et sur les dogmes. Donc, il parle des dogmes en disant que c'est constitutif de l'Église, ça ne peut pas changer. Les dogmes, c'est bon. Donc, c'est un long développement sur les dogmes. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de l'Église ? Et puis, le journaliste lui pose la question. Et le célibat ecclésiastique ? Qui vient comme des cheveux sur la soupe. Et lui, dans sa lancée, il répond ce que nous répondons tous et ce qui est évident pour tout le monde dans l'Église. Mais attendez, là, il ne s'agit pas d'un dogme. Il s'agit d'une tradition latine, en l'occurrence, et qui appartient à la discipline ecclésiastique dont il est possible de discuter, puisqu'il est en train de dire qu'on ne discute pas des dogmes. Vous voyez ? Alors l'autre dit, bah oui, mais justement, dans l'Église, c'est une chose qui est, et il faut se trouver dans un contexte aussi latino-américain, où il y a des mouvements en ce moment, des associations qui luttent contre le célibat des prêtres. Donc c'est aussi à resituer in situ. Et on lui dit, mais le célibat, c'est très récent dans l'Église latine. Et il dit, oui, ça remonte aux temps apostoliques. Et puis il commence à dire, mais l'Église l'a pensé avec beaucoup de sérieux, et on ne parle pas de choses comme ça aussi, même si c'est un défi, parce que c'est vrai qu'il y a des prêtres qui sont concubinaires, parce qu'il y a des prêtres qui ont du mal à vivre le célibat, et donc c'est une question qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps.
Alors tous ces sujets, effectivement, sont une question d'interprétation, on le voit souvent par les médias, mais finalement, est-ce que ça ne montre pas un désir des gens, de certaines personnes de réforme, et ils vont être déçus finalement qu'il n'y en ait pas ?
Mais si ils savent pas de quoi ils parlent, c'est sûr que le problème, c'est que ces choses-là sont lues et interprétées tout de suite par des gens qui ne sont pas de l'intérieur. Et c'est là la difficulté de la communication. C'est bien de pouvoir communiquer de manière libre, comme moi je crois le faire souvent, mais on peut être vite piégé par ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a un monde médiatique, il y a des lois de la communication qui sont pas toujours aussi iréniques et aussi lisses que nous pensons. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile de parler comme ça, de manière, quand on occupe une place magistérielle, c'est pas une leçon que je donne à personne, bien sûr, parce que c'est moi le premier qui le fais, mais c'est très difficile, il faut savoir que les médias, et c'est pas forcément mal intentionné, pour autant, mais selon leur culture, leur compréhension intérieure des choses, ils vont forcément recevoir ça avec des critères qui sont pas forcément ceux de l'Évangile et de l'Église, alors que nous parlons toujours dans les critères, à la lumière des critères de l'Évangile et de l'Église.
Radio La Pourdi.
Monseigneur Hayet, nous vous retrouvons. Alors, toujours à propos du pape François, le pape a invité tous les chrétiens du monde entier et tous les hommes de bonne volonté à une veillée de prière pour la paix le 7 septembre dernier. Il a envoyé également un courrier à Vladimir Poutine qui accueillait le G20 en Russie. Vous avez vous relayé aussi dans notre diocèse cet appel du pape pour la paix.
Bien sûr, hein, moi je crois que c'était très important. Et c'est là où on voit d'ailleurs que cette voix du pape est entendue. Il est évident que dans la suite de cette belle formule qui avait tant marqué les esprits au moment du concile de Paul VI à l'ONU, plus jamais la guerre, plus jamais la guerre, le pape devait intervenir pour empêcher une aggravation de la guerre en Syrie, sans pour autant prendre parti pour le gouvernement actuel, mais en montrant d'abord qu'on n'avait peut-être pas tout à fait les éléments pour savoir si c'était les rebelles islamistes qui engendrent un chaos terrible en Syrie, si c'était le gouvernement qui avait pratiqué ce massacre chimique. mais surtout ne pas rajouter la guerre à la guerre et la violence à la violence, et donc ne pas produire une accélération au nom d'intérêts qu'il était difficile de décrypter complètement. Et comme vous le savez, le pape est très informé. L'État du Vatican est peut-être le plus petit au monde, mais le plus informé au monde, parce que la diplomatie vaticane est partout présente et reste sur place et également en état de guerre et de conflit, alors que toutes les autres ambassades sont rappelées dans leur pays. Et donc, ils savaient aussi pourquoi ils risquaient des aggravations terribles. Hein. Et donc, nous avons relayé ça aussi par une veillée de prière par laquelle nous sommes unis, cette prière du pape à Saint-Pierre de Rome le 7 septembre dernier.
Voilà, nous changeons complètement de sujet. Nous allons évoquer quelques sujets de société qui font la rentrée aussi dans l'actualité de notre pays. Violaine Ricourt-Dumas.
Alors, tout d'abord, les sujets de société qui s'accélèrent en cette rentrée, que ce soit les risques de législation sur la PMA, la théorie du gender dans les écoles, la fin de vie sur lequel le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis cet été. Donc, on sent une accélération des décisions gouvernementales sur tous ces sujets. Comment agir en tant que chrétien? Comment rester vigilant?
Alors, il est manifeste, si vous voulez, que après la forte mobilisation des Français, on peut dire, pendant toute l'année contre le projet de mariage dit pour tous, et même qui ne s'est pas relâché dans la mobilisation après la promulgation de la loi, hein, Taubira, inquiète le gouvernement, c'est évident. Sachant que il est en plus au plus bas des sondages, confronté à des problèmes économiques et sociaux dont il ne voit pas le bout et pour lesquels il n'a aucune solution réelle à proposer, et il s'est englué dans ces questions sociétales. Il voudrait aller très vite et mettre tout de son côté dans l'appareil dit démocratique qui le lui permet, et il voit que il n'a pas de prise sur cette mobilisation qui n'est pas violente, qui est toujours pacifique, mais qui est quand même insistante. Donc, il cherche par tous les moyens, comme il a promis un avis du Conseil consultatif national d'éthique concernant la PMA, qu'ils avaient d'abord dans un premier temps repoussé, ce qui était d'ailleurs une première victoire remportée par le mouvement de la Manif pour tous, ne l'oublions pas, eh ben, ça semble revenir par la fenêtre. Et il veut demander l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, donc il le modifie. C'est gros comme une maison, la ficelle est très grosse, personne n'y voit rien, parce que les médias sont tellement acquis au pouvoir en place, que les médias ne s'insurgent même pas contre cette explicite prise en main totalitaire sur l'appareil politique, législatif, tout ce qu'on voudra. Voilà. Donc il fait entrer dans le Conseil consultatif national d'éthique des gens qui sont acquis à la cause. C'est extraordinaire. Mais c'est comme ça que c'est. Donc moi je crois qu'il y a une mobilisation qui continue, et j'ai de bonnes raisons de penser que le mouvement qui a été initié autour de la Manif pour tous est irréversible, qu'il est en train de s'organiser, semble-t-il, qui prévoit des états généraux de la famille, la rédaction d'un projet de loi alternatif, et il va essayer de le faire communiquer de manière, à travers peut-être de nouvelles manifestations, j'en sais rien, c'est pas moi qui organise, mais je sens que les chrétiens doivent rester vigilants et continuer certainement à...
Et se former aussi peut-être.
Et se former, voilà. Se former pour être capable de saisir les enjeux. Parce que je pense que tout le monde ne saisit pas les enjeux. Et qui suppose peut-être une formation à l'autorité sociale de l'Église, tout simplement, hein, pour bien comprendre les enjeux. Et puis aussi au droit, à la médecine, aux législations d'aujourd'hui, pour être capable de répondre, d'éclairer tous ceux qui sont autour de nous sur les véritables enjeux qui, de tous ces projets de loi en cours.
Ce 25 septembre, jour où nous enregistrons cette émission, Monseigneur, nous apprenons que la croix de Mouguère a été vandalisée. Votre réaction?
Ma réaction, elle est d'être un peu affligé, hein, parce qu'il est manifeste que, comme vous le dites, elle a été vandalisée. Donc de manière tout à fait intentionnelle, en en prenant les moyens, une croix de pierre qui domine un peu la vallée de la Dour. Je sais que le maire a porté plainte, donc ça prouve bien que c'est un véritable acte de vandalisme, peut-être un acte aussi sacrilège, hein, auquel nous sommes de plus en plus habitués. En France, c'est très souvent qu'on entend parler de croix de cimetière qui sont brisées, d'églises qui sont incendiées, etc. Je crois qu'il y a là quand même quelque chose qui est un peu inquiétant et sur lequel il faut vraiment que nous interrogeons nous-mêmes, hein, sur l'importance que tous ces symboles et ces signes de la foi ont pour nous, pour exprimer aussi notre foi et être respectés dans un pays où la liberté religieuse est inscrite dans la Constitution.
C'est la nouvelle année pastorale qui commence avec donc des nominations et puis aussi l'insistance sur les vocations comme chaque année. Nous avons un nouveau diacre en vue du sacerdoce qui va être nommé très prochainement, le 6 octobre, voilà. Frédéric Franco. Voilà, et puis l'Institut Samuel, peut-être vous pouvez nous donner des nouvelles de l'Institut Samuel ou du séminaire, combien il y a de jeunes cette année.
D'abord Frédéric Franco, qui est un Salisien, hein, puisqu'il est originaire de Salis de Béarn, qui a fait tout son séminaire à Bayonne, et puis qui a interrompu à la dernière année son cursus pour rentrer, prendre du recul et rentrer dans la vie professionnelle. Et au bout de 10 ans, toujours ayant encore mûri dans son discernement et dans son désir, m'a demandé, il y a maintenant presque 3 ans, la possibilité de reprendre son chemin de formation. Donc il a assuré dans une paroisse, qui est la paroisse Pietat Laribert Naye, avec l'abbé Pierre-Henri Buru, et puis les paroissiens qui l'ont accompagné pendant tout ce temps de discernement formation, en lien aussi avec l'Institut catholique de Toulouse pour des temps de recyclage théologique. Et donc je suis heureux de pouvoir l'appeler au diaconat en vue du sacerdoce. Je l'ordonnerai le 6 octobre prochain dans l'église de Naye. C'est aussi important pour ceux qui aspirent au sacerdoce et qui sont déjà dans un cursus de formation. Donc au séminaire, nous avons accueilli 3 nouveaux propédeutes cette année. Pour ce qui est des autres, nous avons accueilli aussi un séminariste en fin de cycle, donc au second cycle. Les 2 qui étaient en stage, après avoir commencé la propédeutique ici en 2009, sont revenus donc et intègrent le second cycle cette année. Ce qui veut dire que nous avons à peu près 21 jeunes qui discernent en propédeutique ou sont en formation sacerdotale, donc en premier et second cycle, ici ou ailleurs, dont 14 qui sont dans le séminaire de Bayonne. L'Institut Samuel, qui lui est un internat de garçons, hein, ou pour ceux qui volontairement veulent cette forme de vie d'internat pour vraiment poursuivre un projet de vie chrétienne, qui n'est pas forcément un projet vocationnel bien sûr, dans lequel il serait trop tôt de les enfermer, a grandi un peu puisqu'ils étaient 4, ils sont 6 donc à cette rentrée. Donc c'est une petite institution qui rend d'éminents services et où ces jeunes sont très heureux et qui poursuit sa progression.
Monseigneur, vous accueillez également des prêtres, notamment venus d'Afrique cette année, au service de nos paroisses.
Voilà, donc c'est vrai que pour répondre aux besoins de la mission, en particulier dans des paroisses où les curés sont un peu seuls et parfois fatigués, hein, dans des territoires qui s'agrandissent, je suis heureux de pouvoir accueillir des prêtres d'Afrique, en lien évidemment avec leur évêque, selon des contrats fidei donum, pour un temps déterminé, ou bien ils sont en mission d'études et ils donnent un service pastoral, ou bien ils sont pour une expérience pastorale de 3 ans, éventuellement renouvelable. Et donc c'est vrai que c'est un peu nouveau, il y aura des prêtres venus d'Afrique qui pourront exercer un ministère dans des paroisses du Pays Basque intérieur ou de la Côte Basque. Je pense à Arkang, Basussari, puis je pense à Baïgorry, Ossès.
On termine avec un événement de cette année pastorale, c'est la clôture de l'année de la foi, donc année qui avait été promulguée par Benoît XVI, qui se termine avec 2 grandes célébrations prévues à Pau et à Bayonne fin novembre. Quel bilan pour notre diocèse pour cette année de la foi donc qui a débuté en octobre de l'année dernière?
Alors, comme vous le savez, l'année de la foi, elle était marquée au niveau de la formation, tant du clergé que des fidèles laïcs à travers la formation permanente, par des insistances sur l'approfondissement de la foi et en particulier du contenu de la foi. Il y a eu des initiatives qui ont été prises ici ou là, des pèlerinages auxquels certains ont participé dans le cadre de l'année de la foi, c'était le thème du pèlerinage de Lourdes, mais aussi des pèlerinages à Rome, comme pour les catéchistes, nous nous rendons à partir d'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette interview. Après, c'est dans chaque paroisse la manière dont on a invité les fidèles à approfondir leur foi comme relation avec le Christ, comme appropriation des contenus de la foi transmis par l'Église, de rentrer dans une plus grande cohérence de la foi, et c'était aussi toute la belle démarche Diaconia 2013 qui nous y a aidés, et aussi donner une confession publique de la foi. Donc le bilan, ce sera de nous exhorter à être davantage avoir une foi plus attestataire dans nos communautés chrétiennes, à travers en particulier des missions paroissiales. Et nous clôturerons par une belle célébration. Je pense que Rome nous donnera quelques indications aussi, avec une confession publique de la foi du peuple de Dieu.
Est-ce qu'il y aura une consécration du diocèse à Marie?
Alors cette consécration à Marie que j'ai annoncée plusieurs fois, elle se fera en fait à la journée diocèse en fête, le jour de la Pentecôte, à Pau cette année, parce qu'elle demande une préparation. Et je pense que le pape va nous y aider, puisqu'il lui-même a pris l'initiative de consacrer le monde au cœur immaculé de Marie le 13 octobre prochain, devant la petite statue de Notre-Dame de Fatima, puisque c'est, comme vous le savez, une demande de Notre-Dame à Fatima.
Donc, diocèse en fête à Pau en 2014, le jour de Pentecôte, on peut déjà retenir
cette date. On peut le dire à l'ensemble scolaire de l'Immaculée Conception. Voilà. Et donc, ce sera un lieu tout à fait approprié pour faire une consécration.
Les messes de clôture de l'année de la foi, donc à Bayonne, le samedi 23 décembre.
À la cathédrale.
À 18h.
À 18h. 24 novembre. Pardon. Donc, on a encore le temps d'en parler. Et pour la fête du Christ-Roi, comme l'avait
voilà, donc le samedi à Bayonne et le dimanche à Pau.
À Pau à 18h, à Saint-Martin de Pau.
Merci beaucoup, Monseigneur Marc Caillé, de nous avoir accordé cet entretien. La prochaine fois, nous aurons l'occasion de parler plus largement de la catéchèse, puisque vous aurez effectué ce pèlerinage avec les catéchistes de notre diocèse à Rome. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Merci à Monseigneur Marc Caillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Retrouvez toutes les informations diocésaines sur le site
www.diocese-bayonne.org.